Ce poème radiophonique a été écrit au début de l'année 2000 pour être traduit et lu en occitan. Olivier Lamarque et Jean-Pierre Tardif ont réalisé cette traduction, comblant ainsi mes souhaits. Félix Marcel Castan avait rédigé une préface pour un recueil plus vaste, Vous occuperez l'été, qui englobait ce texte et qui a paru aujourd'hui aux éditions Carder. Mais Castan a quitté la scène sans avoir eu le temps de lire la version Anok de ce poème, ni vu paraître sa préface. Il savait que mon destin était cloué à Toulouse et que cette domination de la ville me demeurerait incompréhensible. Je m'abandonnais alors sereinement à Toulouse, m'en tenant à l'exemple du Canadien Gaston Miron, qui a accompli une œuvre remarquable d'humanité au XXe siècle en vivant de deux activités, greffier de tribunal, puis employé municipal. Je rejoignis Miron et Antonin Perbosque. J'ai toujours rêvé de n'être ni le chef, ni le soldat de personne. À mon retour à Toulouse, deux amis étaient morts et mon père allait mourir. Je me devais d'inscrire leur nom dans ce poème qui faisait ressurgir les figures grandes ou anonymes qui avaient accompagné mon obstination poétique, comme celle d'Alix Chastagnol, dont je n'avais pas su dissiper la détresse. Le Toulouse, de Toulouse Meilloramend, est celui de l'an 2000. Dans les dernières pages du poème, le doute me saisit, comme un pressentiment. Cette ville, au peuple si trempé, serait-elle fragile? Et faudrait-il sans cesse la reconstruire? L'année suivante fut celle d'AZF. Toulouse Meilloramend. À Jean-François Lafont. Dans le ventre de la ville, appuyé aux souches des générations mortes, la mélodie de la tradition désaccorde le vent et les immeubles, froid des promoteurs. Les mots de la révolte, Toulouse est bien placée pour les dire dans la jeunesse erratique de la Garonne qui déplie ses faubourgs coulissants sur fond de soleil vieux qu'entretient l'OTAN nimbé d'occasions violentes. Dans le ventre de la ville, l'amour bonasse veille ses morts qui relient les illusions du monde. À l'école maternelle Jules Julien, mes filles trébuchent sur mes pas, nos errances se tarissent pour boire au même fleuve les pluies désespérées de l'enfance. Et les brumes du temps dispersent le brouillard des fantômes adolescents dans le ventre de la ville qui digère les vins fiévreux de la poésie. Ici, la parole se risque et se perd. Ici, les poètes reprennent leur souffle avant leur marche inachevable de l'impossible traversée du lieu. De pierres ornées et bâties au sommet, les signes attestent d'une présence sans pesanteur, poussière sur les lèvres du temps reculé de l'ambiguë détresse. La déflagration de l'histoire amenuit les ombres sévères de la cathédrale Saint-Étienne. D'une tour, un prêtre fit le saut de l'ange sur les pavés, broyant l'énormité originelle. Et la mort s'arboute encore aux ogives flamboyantes, mesurant son unité à l'aune des prières. Vont-ils débaptiser l'avenue de l'URSS qui nous conduisait grande rue Saint-Michel, Michel Écart, frêle silhouette nouée de poésie, et moi qui puis témoigner de l'arête usée du trottoir? Michel Battle, accueilli au cratère, dans le trafic intense du rythme et de la palette, l'attente écorchée de Claude Saguet, sa voix sonore qui nous faisait aimer le monde, le néant éloigné par le pacte des mots, les phrases lues comme une déchirure, Pourtant, nous savions que l'état latent de poésie ne résoudrait rien des fléaux de l'époque précipités dans les vitres aveugles d'une violence mise en carte perforée. Maintenant, mon père ne viendra plus s'asseoir à ma table au 33 rue des Libellules, dans l'odeur de cire des vieux buffets, plaie vive de l'action, qui empêcha le père de faire halte chez le fils, ou l'inverse. Ma maison est pauvre de cet instant de mémoire, de l'escale du père, et riche de son infracassable image. Nous avions habité, quelques maisons moins loin, une petite Toulousaine rehaussée à l'escalier plus raide qu'une échelle de ferme, avec une chatte que mon père avait ramenée, insoumise et d'une secrète douceur, pareille au déliment des terres à besogne. Je ne sais la cause de cela, mais pour avoir bu la pulpe de la lumière de la ville, nous y lisons notre imprégnation qui alourdit la nuit charmée du Capitole, tandis que le clapotis des fontaines féminines tiennent en alerte les femmes aux prises avec la majesté mesurée des façades, têtes penchées vers les enfants qui exécuteront les sentences du nouveau siècle. Encagoulées dans leur nuit de honte, les images des suppliciés souillent les places des mises à mort. Vanini, assassiné de philosophie, et Calas, d'aveuglement, des racines à nu de l'horreur, dévoilent les carnages de la vie commune des hommes. Mais la vie occitane s'affranchit du trop de sang versé dans l'incendie du pont neuf à la fin du jour, et des haines débordantes dans les dégueuloirs énormes de ses arches. Tout est rendu à la Garonne, la confiance et l'ivresse des amours nouvelles. Mais derrière le linge ordonné des convenances, Toulouse enjambe le vide des visages déchus, brûlés comme les fougères oubliées au soleil. Elle expose ses errances, mémoire d'abandon dans la prison à vie de la rue. Toulouse, perdue dans les flaques d'urine, des bivouacs de la nuit, que je traverse sur la cime d'une solitude de marcheur. Et ce siècle tient du Moyen-Âge, avec ses mêmes monstres et nos frontières ineffaçables. Mais au réveil, les éclats de saphir, du jour vibrant, enluminent le kaléidoscope des murs de briques. Il s'agit de reprendre pied dans les bras de la cité, de s'ouvrir à son mirage marchand, de choyer l'insolence des riches échoppes, d'imputer la chute du vaisseau aux oscillations de l'époque, d'abroger le mouvement de recul des labyrinthes de la nuit pour que les silhouettes qui ont raté les marches plus basses que le sol glissent sur le dallage des places avec les jeunes filles en rollers qui parfument de la grâce de leurs jambes fuselées les violents désirs de pulpe mûris dans le secret du fruit vert. Et la trace du taureau qui emporta Saturnin fait éclore la jeunesse en fuite qui rôde au-dessous du clocher de Saint-Cernin le dimanche matin, fondu dans les vieux étains et les livres d'élité. Et la jeunesse brève, dans son escarpement, visite d'un regard mis à nu les bananiers malingres d'un jardin dans le soleil attendu de mars, famélique témoin de soleil plus épais, plante nourricière de terre incompulsée comme des guides de voyage qui ne sont ouverts qu'au retour pour soutenir une nouvelle nostalgie. Plus loin, des tagueurs écorchent les murs dans une mouvance acide de territoire. mais rien n'égale l'embrasure du fleuve dans sa majestueuse courbe de lassitude. Car elle a beau s'étirer avec élégance, la Garonne ne peut accorder l'asine de ses berges à l'encombrement des résidences sans ternir le teint de l'échafaudage des siècles. Déportée par ses flots, elle oppose une sentence de boue. Alors, la ville boude d'un ciel bas qui vous accable au matin de son cortège mélancolique et ruine les marigots des vies habituées. Cependant, le jeu suffit à son bonheur et à midi, les vieux réchauffent leurs veines saillantes, le dos tourné à Goudouli dans le soleil de la place Wilson. Ils regardent les terrasses des cafés où de jeunes femmes trinquent aux passagers de leur nuit, qui rongent les vantaux clairs du matin dans la consolation des rôles de second plan. Mais comment éliminer la langue de bois de la répétition? Car la ville des troubadours n'a jamais vidé ses citernes des eaux requises de l'amour. Des yeux intimes s'accordent aux bras des jeunes filles que les caresses gouvernent. La ville ne manque pas de chair. Elle porte à sa bouche la tendresse gardée de l'enfant apaisé. Un secret nonchalant somnole sous les grimaces des cariatides, dévoyées au vent qui s'en va lisser le lauragais de toute arrogance hérétique. Les gens du Nord ne viennent plus brûler nos sages dans leur litanie humble, blanche d'une attente chaste. Les briques fêlées par les siècles honorent d'un même élan l'âme toulousaine, ivre de la puissance érotique des cours d'amour et de la décence des cathares allant au déclin sans tache de boue. Et l'on se plaît dans l'étau de la ville, passager des signes de son monde de paroles, agile comme le vent éternel qui agite les chiens et fatigue les corbeaux, pur souffle du Dieu nonchalant qui dispose de toute chose et de toute matière de mort avec mystère et attachement. Dans le visage ravalé de la tradition, la ville consent un sommeil moisi. Et ils sont quelques-uns à porter les braises des poèmes dans les mains des hommes immuables d'obscurité. Ils empruntent des mots aiguisés comme les poignards qui égorgent les brebis noires. Aucun de ces porteurs de paroles ne mérite l'oubli sablonneux dans les caves agencées de la négligence. Nul équerre nocturne ne mesure la rectitude de leurs cris, gagnant la couche de chiendent des vies perdues dans l'eau profonde de l'imagination. Coupé de pluie, le vent maraudeur déploie ses ailes sur leurs visages, qui ont secrété l'innocence à la dérobée du feu. Alix Chastagnol, vibrante, sous le fouet des déjections d'une vie consumée, balbutiant rue Croix-Baragnon, des mots sortis de leur cage, ordonnés dans des poèmes d'orfèvre. Jean-Pierre Lamont, exhibant ses masques comme des moignons, avec les mots érudits de la colère. Michel Écart, diaphane, noyé dans la femme multiple, avec les mots serrés de la vérité. Jackie Renaud, luttant à mort contre le vent, avec les mots de la fatalité. Henri-François Guittard, avec les mots rayonnants de l'élégance, de l'ultime pirouette. Et il est juste que se confondent les vivants et les morts dans l'étreinte des mots donnés en offrande à la ville. Un cheptel d'écrivains engrange des émotions de contrebande, chuinte de trouvailles liées en gerbes de paraboles. Ils franchissent la porte haute du Capitole, portent leurs pas d'écarisseurs du verbe usagé vers la cour Henri IV, où le duc de Montmorency perdit la tête, comme eux, promis aux échéances de cendre, dignité des hommes qui sortent le peuple de l'ombre et le déglutissent dans le détour de leur langage, réfractaires à la colonisation des défricheurs. Bonheur de se lever dans la performance de Serge Peille qui déborde des peurs et des violences dans les globes rouges des tomates qu'il écrase de la bouche des torturés et de leurs poumons de nuit vermeille. Serge, déguiseur de couteau, seul compagnon de la machine qui geint au sud, dans les copias cuirassées de marbre. Et Monique Lise Cohen, chapeautée de noir, brasse les obliques voix de la lumière qui gronde d'élégie la Rossellito au corps mangé par un ciel de soufre hermétique. Oh, les ombres emportées par la nuit que l'on tire à main levée dans les plaintes des trains qui frappent la ville d'atroces ornements. Soudain, les fenêtres dans les quartiers se ferme d'illusions, comme une malédiction étrangle la langue froide de la résignation. Toulouse, à l'orée du monde, gêne encore dans ses faubourgs et se désespère de n'être plus devinée, roulée dans les chiffons du vent. Mais quand l'OTAN cesse la remontée des toits retournant au sommeil, quand les pigeons tournent plus vite sur les places, remis de leurs blessures, et fiantent sur les sirènes de la Trinité, la cité, fière des Capitouls, tombe de plus haut. Les hoquets de l'inquiétude l'empoignent. Et, place du puits, une couverture d'attente s'abaisse sur les lauriers de la dame renommée, comme le catafalque de la dame Tolozo. Et il a bien raison, Michel Cosème, de rappeler que toute action de l'homme s'enracine dans le passé comme un vieil outil, que l'Occitanie essaime toutes les plumes de ses élancements, blanches et noires, comme il sied aux aigles des Pyrénées. Michel Cosème, couvert du sang des fables, laboure depuis des décennies, les terres arables de l'écriture, dans les caillasses des corbières, du Quercy ou de l'Ariège. Mais c'est rue du Thor qu'il rallia ses amis d'encre vive. Plus d'un en chaviré dans les barques du temps, qui descendent la Garonne, tenues dans la ferveur végétale des rives. Aux lisières des fruits, l'enfance s'estime parvenue. La ville pourrie sous les auloges, pechoir des haubans des étendards qui claquent comme des moulins emballés. La volupté de la ville est une arme qui éternue sur des chimères incontinentes. Les derniers mots sont irréparables. N'imaginez pas que l'on puisse jeter dans les puits étouffés des temps anciens les blasphèmes prophétiques des lampistes. Mais le champ est libre pour inscrire sur le front de la ville, la preuve tenue de son hospitalité universelle. Et dans les carrefours de mains tendues s'entassent des épopées quotidiennes raisonnables qui font sécher aux fenêtres les linges communs d'une littérature sans rature. Michel Baglin, l'enchanteur, célèbre la vie, rivée au réel par toutes les fibres délicates de l'écriture. Casimir Pratt, dans une humble mélancolie, dit à haute voix les dessous des nuages et la dernière fumée échappée de l'indulgence de la bougie. Mais le ventre de la ville digère aussi l'autre langue que parlait ma grand-mère, habillée de noir, du cadran lunaire de ses peines, la langue d'oc qui remonte les rues, avec l'argot des beurs mêlé au même parfum de la désobéissance, profilant une fraternité de racines et de pierres, faisant irruption dans la modernité qui tremble de sourire dans l'ensorcellement des chants de Claude Sicre et le ralliement à Félix Marcel Castan, poète des affligés, qui dissipe les bourrasques noires de l'ignorance. Sous le toit de chaume de leur maître, Bernard Mancier, l'esthète, trône dans les académismes de l'hôtel d'Assesa. Les fruits précoces de la poésie occitane tranchent les cordes de la retenue et ne fouissent plus les épluchures de la misère. La Philadelphe, aujourd'hui, exporte ses langues, docilement veille dans les mansardes des deux parlers d'une même humanité. Les boulevards conformistes convoient les automobiles qui sortent comme d'un toril des entrailles de la place du Capitole. Avec des allures de fauve, elles griffent le macadam et bondissent obstinées vers les quartiers dans le ras de marée de leur trop-plein. En d'autres rues, des jeunes gens bleu horizon patrouillent, dénonçant les ombrageux et les mauvais plis de la ville. Le fleuve, en novembre, reprend du poil de la bête et fait entendre ses borborygmes à l'hôpital Saint-Jacques. L'œil énucléé du château d'eau contemple les visages photographiques du monde. Le bonheur, parfois, y prend la pose et soulève la pesanteur de vivre comme une cariatide civilisée. À la grave, l'amour accouche avec césarienne et se lie entre les lits. Il y a bien celui qui ne sort plus de la paresse de l'hiver et cède à cette promesse qui le tire vers le ciel. Mais beaucoup conviennent de leur pénitence au milieu des arbres qui épaulent la ville de toute leur hauteur. Mais si cette ville, un jour, n'était plus aimée des dieux, si l'on en donnait la clé au vent contraire, qui croise au mauvais jour, paix, paix sur la ville, que viendrait gâcher les scrofules de la colère, et celle, plus rouge encore, de la lâcheté, qui livrent au lynchage les chiens perdus et les cœurs arrachés. Qu'elle se laisse porter par le vent, soit, mais qu'elle dorme, le nez dans les étoiles, qui martèlent son destin, qu'elle grandisse comme une fleur des tropiques, sous la sueur des pluies, qu'elle enfouisse ses misères dans le rire des garçons du stade, qu'elle avale la mélancolie des brouillards de la Garonne dans les lumières ostentatoires qui la nuit irradient les fontaines et les monuments dans leur dur recueillement, car il y eut tant de maîtres dans ses murs. René Nelly, le dernier, venu de Carcassonne et de Joey Bousquet, assis en mon caf, à la place même où j'écris ces lignes, laissant son empreinte comme un souffle familier sur l'érotique des troubadours et la vision de Montségur, tant de maîtres à continuer. El Barranco de la Sangre. Ce texte, ce poème radiophonique, ayant pour thème l'Alpujarra, c'est une région de l'Andalousie à l'est de Grenade, dans la Sierra Nevada, comprend deux parties. El Barranco de la Sangre, nom d'un profond ravin aux portes de Bousquistar, dans la montagne, et l'Anjaron, nom de la ville thermale de l'Alpujarra, où je séjourne régulièrement avec ma famille, mon épouse Isabelle, y ayant ses racines ancestrales. En 1610, sous Philippe III, les Maures, plus de 80 000, furent expulsés de l'Alpujarra. Une grande partie du territoire de Grenade fut dévastée. Il y eut un repeuplement de paysans de Galice, Léon, Asturie et Castille. 12 542 familles repeuplèrent 270 villages et 130 furent perdus pour toujours. À partir d'alors, commence la décadence de la région qui tombe peu à peu dans un long oubli historique. Il faut attendre l'insurrection du 18 juillet 1936 pour que l'Alpujarra se signale, les rebelles qui possédaient Grenade ne pouvant s'aventurer au-delà de l'Anjaron. Orgiva, évacuée, se trouva entre deux feux jusqu'à la fin de la guerre. Les atrocités commises par les deux adversaires trouvaient leurs origines plus pour des raisons personnelles que politiques. Les 14, 15 et 16 août 2010, la mairie de l'Anjaron organisa le premier Azokake médiéval, vaste marché où fraternisent les trois cultures chrétienne, arabe et juive. La paix et la sérénité ont pris de nouveau possession de cette terre qu'aima tant Lorca. El Barranco de la Sangre. A Teresa Garcia. Je suis frère de tous et j'exècre l'homme qui se sacrifie pour une idée nationaliste abstraite. Federico Garcia Lorca. Aïe Federico, nous t'avions endormi dans l'allégresse d'un peuple libéré de la patience du vent. Federico, nous t'avons honoré à portée de lune dans le galop du temps gitane qui épuisait notre jeunesse. Et à Grenade, Federico, tes yeux me fixent, ourlés du noir pressentiment qui accuse quand tu donnes le bras de l'affection à Constantin Ruiz Carnero. Federico, je tiens ma fille par la taille à l'Alhambra, et toi, tu m'enlaces de tes poèmes, incrustés comme des échardes. Federico, Manuel Garnacho, l'architecte fidèle, voyager avec le livre rouge de 100 cahiers de tes œuvres complètes, interdit alors, mais que tout Espagnol lisait. Et ce n'est pas le moindre de tes paradoxes, Federico. Et le sang andalou de ses ancêtres irrigue ma fille, et par elle, je m'approche de toi. Tu tiens ton rôle dans les signes de la Sierra Nevada, dans les villages blancs, miroirs de ta langue, dans la nuit chaude qui nous recouvre de l'obscure racine du cri, d'un crime à Grenade. Oh Federico, les mythes grecs charrient le sang des vies détruites dans la démesure du temps. Et le tranchant des pierres, jeté aux gitanes, qui s'abritèrent de l'horreur dans l'Alpuxarra, avant qu'Aranda, le franc-maçon, fasse signer à moi, le roi Charles III, l'édit qui les tolère dans l'errance. Et le chant profond est né, Federico, que ta langue propage dans les couloirs d'air du monde et en ravale le feu. C'est revêtu de sa puissance que je viens à la rencontre de l'avenir intime de la terre andalouse. Il règne ici une sérénité rougissante qui déborde les jours et des nuits de cendres chaudes qui apaisent l'histoire. Et ce chant qui mord les entrailles, venu des synagogues, des mosquées et des indo-européens, ce chant gitane allonge la vie et abolit la honte dans un subtil ressassement du cri. Oh Federico, le sang est plus fort que nous, et l'honneur gitan est sauf, quand on rapporte du monde la fatalité de l'arrêt de ta parole dans ta poitrine hémorragique. Dans le sillon d'Isabelle, la bien nommée, nous parcourons ta montagne, radieux dans la résurgence de la romance de sa mère, enfuie avant que ne s'embrasent les villages dans un déluge de mitraille. Et la terre exhale l'haleine des parents unis dans la fosse commune du cimetière d'Almerihar. Leurs éternelles noces minérales fécondent leur mémoire qui invente leurs formes évanouies sous l'écrasement final. Ici, fomenta leur révolte dans l'alignement des oliviers, dans le portail de la montagne qui les enfermait dans la traque d'un pain qui se méritait dans l'utopie de chaque matin. Et ce fut sous un très vieux olivier que tu fus enterré, Federico, dans une fosse étroite, avec trois compagnons et ta lavalière d'artistes, et les femmes d'Almerir ne t'avaient toujours pas lu quand le canon tonna de l'ordre des assassins, embrumant la lune arabe qui ornait les nuits où l'amour effilait sa lame d'acier sur un relent mélodié de Moussouli. Mais la lutte fut longue, Federico. Les vies cassées, bâillonnées de sommeil, défaites des alliances trahies et tes mots dénudés épaississaient les miracles de ta survie. Les spécialistes de la mort possédaient grenades dans leurs souffles obscènes et mariaient la terre aux gardiens des chaînes. Plus tard, nous sommes venus accroître les yeux ouverts, renforcer la veille de tes poèmes, travailler à la destruction de l'édifice. Et Isabelle, aujourd'hui, avec sa fille, gambade dans les amandiers de l'enfance de sa mère. Elles vont dans les chemins sans abri des fusillés. Elles montent sur l'ombre de l'église qui se casse comme une cruche quand un nuage blanc la domine. Elles écoutent la vieille femme qui a connu Teresa, adolescente, et finit ses récits dans ses yeux, habités de celle qui passa la frontière de l'autre côté de la mer, fuyant un amoureux et conduit et une terre sans retour, celle qui alla sur la route de Grenade, mue par l'ample courant du refus, rompant à jamais avec les concessions de la tradition, gagnant la liberté par les greniers et les toits, dans la nuit ouverte à l'inconnu. Et l'océan cimenta l'éloignement, ne lui laissant pour viatique que l'imputrescible langage andalou. Et dans cette terre redécouverte, sa fille, et la fille de sa fille, 70 ans plus tard, dans le corral de la maison villageoise, qu'il abrita, elle, Thérèse, défend ses années de patience où rien n'a été dit, par la fraîcheur de leur rire, par la bienveillance de leurs gestes, tenant par les épaules la vieille femme gardienne de la mémoire. Quand la mitraille terrorisa Almerir, depuis 4 ans, Thérèse livrait ses combats intimes comme une vie lente à mourir. Sous le soleil arabe, l'univers n'est pas tendre, qui ride le visage et plisse les yeux bleus de la belle immigrée. Et maintenant, sous les balcons incendiés de fleurs, Isabelle promène dans les rues montueuses où sonnent les sabots des mules harnachées l'histoire de sa mère et d'une Espagne aveuglée de soleil et de conflits qui efface sa souffrance dans la paix régnante de la prémonition de Lorca. Le nombre des années a libéré la parole de l'obscure racine du cri, le sang que le poète ne veut pas voir, sèche dans le fond des ravins, et rachète l'angoisse des blessures qui ont toujours la douceur de l'âge, où l'on se tue pour un amour avec un couteau, avec un tout petit couteau. Et l'insoumission accuse le peuple andalou qui vit en pensant toujours à la mort dans la vieille terre murée de l'Alpujarra. La joie peut venir chasser le sommeil. Les pas d'une mère, faibles et lourds de fatigue, remontent le temps au-delà de l'heure oubliée. Isabelle à Almerir, dans la pauvre montagne, témoigne du visage de sa mère et de la parole si haute des yeux clairs de celle-ci qu'on ne l'entendait pas. Une parole qui ne s'accoudait pas au malheur de la dernière pauvreté. Une parole de femme rebelle qui déposa dans son village son passé pour le clore à jamais. Mais sa descendance vient ouvrir le seuil de son ancienne maison à la blonde lumière de l'amour. Là, sous la tonnelle de la terrasse, blanche d'insouciance, je photographie le visage serein de Francisca Sáez Ramos dans la touffeur poussiéreuse de l'été. Dans les champs pentus, le vert des amandiers se mêle à celui des oliviers et s'isole du vert des orangers. La terre ocre capture le soleil d'un long désir de vie. Un avorton de nuages blancs fendit à peine un ciel cobalt dans l'air vitreux. La mort s'éloigne, chassée par la beauté qui la dissout. Nulle tension dans la trogne des vieux, assidus à leurs bancs et au silence complice. Les années ont poli le rebord de leur certitude. Ils savent depuis longtemps que les gitans de Lorca ont franchi les frontières de la peur universelle, qu'ils sont partis hanter d'autres peuples de leur allégresse interdite, oxygénant la parole par les brèches obstinées de leur passage, apportant le duende pour exorciser leur terreur séculaire. Le soleil retourne l'écho de leur éternité. Leurs cris se referment sur leurs pas sans trêve et ils se parent du linge blanc de celle de la lune pour tendre leurs rêves d'enfants en larmes à la Vierge Noire qui bénit les vieux d'Almerirar au souffle lourd de ce chant serré dans leur poitrine jusqu'à briser leur cœur. Et dans les montagnes de l'Alpujarra, les années se comptent comme autant d'aventures, celles ostentatoires de l'allégeance à Franco, et les chuchotements, celles du consumérisme mondialisé. Mais les montagnes ne se donnent pas au cosmopolitisme niveleur. Elles ne dilapident pas leur histoire. Et Isabelle sourit de son permis de séjour tacite dans l'originalité des générations nées de ces terres depuis le néolithique et qui venaient souvent de la mer, comme vint le sang pour la dernière fois l'été 1936. Et nous nous arrêtons, nous aussi, à l'Akharon, comme les rebelles qui coupèrent Hochshiva en deux, pareil à l'Espagne, malade pour 40 ans d'insanité mentale. Nous escaladons le château arabe, perché sur sa colline, où le musulman noir, capitaine vaincu, qui commandait la place, se jeta, il y a 5 siècles, du haut d'une tour. Que de sang pour les maisons blanches de Portuos, de Pitres, de Boubion, de Pampaneira, de Capileira, adossées à la Sierra Nevada, dans une quiétude solaire. Que de sang à oublier dans la félicité des ânes, des fontaines rouge d'eau ferrugineuse, de l'hospitalité des villages, pittoresques jusqu'aux délices, que de sang pour rompre les ténèbres. Mais Isabelle répare la parole brisée de sa mère, et moi, je recueille la parole enfouie de l'Occitanie. Parole violentée 2 siècles avant la défaite arabe et ce pays d'une flagrante connivence mais limitrophe. Ils parlent la même langue d'amour, suprême conquête arabe. La Croix du Sud et la Croix du Languedoc, en 12 points, se parlent dans leur alphabet infini de signes. Croix régnante. Dans leur confirmation mutuelle, elles libèrent l'air de la Sierra Nevada et l'air des Pyrénées. J'appelle Isabelle à côté de leur voix, liberté désolée des oublis séculaires. Que nos oreilles ne soient plus bouchées par le silence. Qu'enfin les peuples sachent tout de leur parenté. Qu'on leur oppose le sceau léger de la fratrie qu'Isabelle et notre fille, blondie de la clarté d'Alpujarra, prennent possession de leur héritage universel qui revient des siècles humains parmi les choses de leur vie. Elles ne sauraient clore le passé, le soleil revenu sur les deux terres, la luminescence des oliviers dans les reliefs pentus grave la joie d'être là, tel qu'en nous-mêmes, assiégés par la présence mémorable de Federico Garcia Lorca, souriant aux clameurs et à l'hommage du temps aux confins des montagnes où circule sa parole et vers le soir le sang du ravin où il tomba avec un bruit de coquillage trouble de son sortilège les nuées. L'Ancharon à Isabelle. La porte est restée ouverte. Je t'apporte un filet d'eau de l'Ancharon en guise de caresse et ces chants de cigales qui se moquent des mots qui dressent les hommes les uns contre les autres. Je t'apporte cette eau sortie en courant de la terre pour se déprendre d'elle. Ta bouche est douce comme une orange et ton baiser chargé de la laine du vent qui courtise les fleurs. Le soir viendra dans cet étonnement jamais rassasié. Enfin le soleil perd de sa force, renonce au dard de sa fournaise, dans le monde englouti qui ne peut s'alléger de son histoire. Mais l'air enclos dans une lourdeur de cendres brûlera encore la nuit d'insomnie, sous quelle figure tutélaire tu apparaîtras comme un baume sur la blessure de l'incendie qui carbonise les jours de sécheresse. Dans les buissons du chemin, deux guêpes t'ont piqué, et tu as dévalé la pente comme un cheval furieux gravaché par l'hostilité du lieu. La bonne Samaritaine est traversée de l'aiguille d'une souffrance injuste, titube dans l'émail de la douleur, éteint de son mépris l'épilepsie de la panique, et se satisfait pour longtemps de l'ordre probable du monde. Le chat famélique vient, rampant de peur, gober les miettes lancées du balcon. Il sort des fourrés, trottine prudent sur la terre rousse, mimétisme de son pelage, et jette sur moi des yeux anesthésié d'angoisse, enhardi, il mâchonne longuement un morceau de fromage souillé de cette terre ocre. Combien de migrations pour féconder ce chat, miaulant sa faim au pied du manteau de la Sierra Nevada? Le temps écoule sa passivité dans les gouttières de la vie où dansent les chats. Cette vie nous appartient. Il faut si peu de temps pour aller de la montagne à la mer et le soleil fait route commune de l'Ancharon à Salobreña. Se baigner dans la mer suffit à donner un signe de vie, à renvoyer la mort. Servante prise la main dans le sac de ses basses rapines. Elle a beau encercler les montagnes de sa pensée obtuse, notre parole est la plus forte qui la chasse comme on désherbe. Dans le chemin abrupt qui grimpe sur la montagne et redescend sur Orgivin, les cigales en chœur susurrent. Jusqu'à Malaga, les vers de Chantal Maillard. Ensuite je bus la lumière à large gorgée, comme on boit le sang d'un dieu après le sacrifice. Cette lumière, projecteur blanc, d'un éclair qui n'en finit pas et file à toute allure vers des orgies d'étoiles, cette lumière, n'est qu'un reflet du brasier aveuglant d'autres yeux, écho lointain d'une vision atroce d'un Dieu crucifié. La ruse est d'oublier l'amertume, de laisser ensuite cette terre de s'en détourner, sans regarder derrière soi le ravage des balles perdues de la mémoire. L'automne imposera son ordre, les rues vides qu'une année nous avons hantées à l'Kharon, hélant la pluie, les silhouettes des chiens mouillés, le cri étouffé du hibou. Les rêves vieilliront sous les réverbères, et dans le regard de plâtre des statues, des vierges et des saints, hébergés dans la pâleur tremblotante de la nuit. Nous avons pris pour nous cette obscurité confessionnelle qui érige les clochers. Nous nous alarmons dans la procession, nous vibrons au son des trompettes, prêtons nos âmes païennes à la nuit rédemptrice, exemptes de toute certitude, à l'insu des prières, nous pleurons tous les morts inconnus, nous nous berçons des prophéties, des saints, proches libérés dans la ville par les chants du peuple. Le bien connu conjure les ténèbres dans les statues habillées d'or de la Vierge, lourds signaux d'une apparition, l'inventaire est aboli dans ses grâces sulpiciennes. Le château arabe a été restauré. Est-ce le bonheur aujourd'hui de fêter dans la ville pavoisée l'essor des trois cultures, islamique, juive, chrétienne? Les puissants ont perdu leur lot de condamnés. Un toit et du pain à partager pour chacun. Mais qu'advient-il de celui qui a donné sa vie pour une gloire inflexible? Et toujours l'eau, cette part de miracle, des neiges célestes qui enfantent la ville comme une mer intarissable de bonté. Sur les fontaines, les vers de Lorca, en 1927, son visage, perdu dans la photographie d'un groupe de jeunes gens, le poing levé, ignorant de leur destin, Federico, en sursis à l'hôtel d'Espagne, habillé de vert, les bourreaux qui ne préviennent pas, les chemins, à flancs ouverts, dans la montagne, reposent de la pensée fatigante. Long comme une soif inapaisée, il mène à l'épuisement où succombe l'inquiétude. Tu t'arrêtes parfois pour cueillir un fruit, mûri dans la lumière violente, et tu l'offres pour exorciser toute peine à ta fille, demeurée à distance de toute peur inexpliquée. Et elle dit, comme dans les évangiles, ta joie d'avoir triomphé d'un inconnu menaçant. Ne demande pas au chat si tu reviendras l'été prochain, ou un prochain été, si le vent chaud agitera les châtaigniers avant septembre, si ton corps brûlant s'assoupira dans l'ombre, si les semences tiendront parole, si tu goûteras le vin épais des futures vendanges, de ce vin noir que l'on dit surgir de la terre. N'exige que le silence qui n'offense personne. Les fontaines installent leur dialogue et répètent ton nom comme l'eau qui descend apprivoisée des montagnes. Tu viens au balcon, mêler ta voix à celle du ruisseau qui court, distrait à nos pieds, installé pour toujours dans cette plainte. Les hauts fonds des arbres devant nous dessinent une prédisposition au bonheur et nous immerge de leur ombre. Le soleil dévoué de sa vieille brûlure nous décharge de toute solitude. Tu as deviné cette disparition. Dans la touffeur de minuit, une tente bédouine montée au pied du vieux canon, postée là comme une armée sans maître célébrant sa défaite, trois musiciens, une danseuse. Et l'Ancharon sent bon l'Orient, dans les mélodies de Bagdad ou de Marrakech. La nuit de sa lune de diamant traverse la ville étrangère, grisée par les rythmes, les coups de rein de la fille, et tout le peuple est en visite, ne fouillant plus dans sa mémoire. Ma chère fille, ta grand-mère avant toi a connu ce clocher, et peut-être qu'alors l'Ancharon ressemblait à une vieille gravure, épargnée par les turbulences du moderne. Y venir fut pour elle un long voyage, car descendre de la montagne était remonter de l'abîme. La ville respirait comme une ruche et exhalait la bonne odeur du pain qui manquait à Al-Merir. Ma chère fille, les jours terribles sont passés, des mondes ont échangé leurs couleurs, se sont imbriqués pour gagner de vitesse le temps qui tombe comme une pierre. Le regard clair de ta grand-mère, en perdant de vue le Guadalfeo, s'arrachait aux noces noires d'un sommeil sans âge et claquait la porte à la honte avec toute sa force pour que la mémoire meure et devienne plus sèche qu'un amandier foudroyé par l'orage. C'est la fraîcheur des fontaines de l'Ancharon qui a réveillé sa jeune vie, endormie au fond des ravins de l'Alpuxarra. Le chat ce matin n'est pas venu. Dureté de l'absence où tout finit. Pourtant la montagne ici, tranquille et sans énigme, ne cache aucune peur. Vers quel dieu monte-t-elle offrir bravement ses figuiers, ses oliviers, ses châtaigniers, ses cognatiers, ses amandiers, ses orangers, ses citronniers, ses noyers, ses pêchers, ses poiriers? Oh, tant de richesses mûries par ce soleil implacable que l'eau tire de la lumière. Cette eau qui dévale savamment contenue par une complexité de rigole, ingéniosité de l'homme depuis deux millénaires, prolongeant le miracle de cette terre qui vit son aventure paisible. Le chant joyeux de l'eau reprend son souffle dans les dures descentes et le chat réapparaît, splendide larron, débordant d'appétit, ce peloton repu à l'ombre de notre amitié et disparaît dans les hautes herbes, effrayé par le moteur d'une voiture. Ah, la fuite, l'utopie de la fuite. Ceux qui ont émigré de l'Ancharon n'ont-ils pas été chassés d'un paradis dédaigné? Leur jour était donc sec comme l'enfer, lorsque de lointains messagers vantèrent la fraîcheur des nuages, ombrageant des trésors cachés au-delà des sommets de la Sierra Nevada. Ils prescrivirent leur départ à l'heure dite d'un hasard désemparé et, au seuil de leur marche, contemplèrent une dernière fois l'eau claire au fond des ravins.